Est-ce la bonne décision ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Offering size of about $100 million, that figure will likely be multiple times higher when it does go public. Robinhood listing on the Nasdaq under ticker HOOD, H-O-O-D.
L'annonce fait la une des médias financiers américains depuis des semaines, à l'instar de CNBC. L'application boursière Robinhood devrait prochainement faire son entrée sur le Nasdaq américain. La boucle est bouclée pour le champion des petits porteurs, qui a su conquérir 18 millions d'utilisateurs. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos, et on va revenir sur le succès d'une application qui a réconcilié les Américains avec la bourse. Prenait aux riches pour donner aux pauvres. C'est ce que dit la légende de Robin des Bois, Robin Hood en anglais. Robin Hood, c'est aussi le nom d'une application de courtage en ligne qui a révolutionné l'accès à la bourse aux États-Unis. Elle a été créée en 2013 par Vlad Tenev, un entrepreneur américain d'origine bulgare passé par Stanford, université où il a fait la connaissance de Beiju Bhatt, américain d'origine indienne. Les deux trentenaires ont créé en Californie les bases d'une entreprise qui, en quelques années, va amener des millions d'Américains à se précipiter à Wall Street. Une entreprise qui va aussi les rendre milliardaires avant même l'entrée en bourse prévue dans les prochaines semaines. Robinhood, le nom résonne dans les mémoires collectives. Dans mon cerveau, je pense plus à Errol Flynn qu'à Kevin Costner ou Russell Crowe.
Robinhood, outlaw of Sherwood Forest and his stalwart band, robbing the rich to feed the poor, ready to fight for king, for country, or for maiden fair.
L'application va surtout bien porter son nom lors de l'affaire GameStop dont on a déjà parlé dans la story, la croisade des petits porteurs contre la haute finance de Wall Street. Wall Street que le groupe de 2100 salariés rêve aujourd'hui de rejoindre. Ce sera l'un des événements les plus attendus sans doute par les investisseurs qui utilisent chaque jour les services de l'application Star de la Bourse sur leur smartphone ou leur tablette. Bonjour Bastien Bouchaud.
Bonjour Pierrick.
Vous êtes journaliste au service marché des Échos, vous êtes un peu le baromètre des marchés financiers au journal. Pour commencer, expliquez-nous quel est le métier de Robinhood.
Robinhood, c'est un courtier en ligne. On appelle ça un néo-broker aujourd'hui parce que ça a été un des pionniers de cette nouvelle génération de courtiers en ligne. On connaît... Il y a 10 ans, 15 ans, c'était les banques quasiment uniquement qui faisaient ce métier-là, qui permettaient aux gens d'investir en bourse. Et depuis quelques années, notamment depuis l'arrivée de Robinhood, il y a beaucoup de nouveaux acteurs qui permettent aux gens, aux particuliers, d'investir en bourse assez facilement.
En France, on connaît Boursorama, c'est un peu l'idée. Hein.
C'est ça, en France, il y a Boursorama, il y a Bourse Direct, et puis maintenant, depuis quelques années, il y en a beaucoup de nouveaux qui imitent Robinhood. On peut citer eToro, Trade Republic ou des acteurs comme ça, quoi.
Every day, millions of dollars of listed securities are bought and sold on the New York Stock Exchange.
Robinhood, the startup that wants to remove Wall Street's toll booth with free investing for all.
Le groupe a vraiment révolutionné l'accès au marché américain.
Ouais, ça a été un changement assez radical parce qu'ils sont rentrés sur le marché avec l'option de faire des échanges en bourse sans commission. Alors que c'était la grande barrière pour investir en bourse, c'est que chaque opération d'achat ou de vente d'une action coûtait cher. Avec eux, c'est devenu gratuit pour les particuliers d'acheter et de vendre des actions en bourse. Donc forcément, ça a créé un appel d'air assez important pour les nouveaux utilisateurs. Et ça a attiré beaucoup de gens qui n'avaient jamais investi en bourse, en fait, qui n'avaient pas forcément de patrimoine suffisant pour pouvoir se permettre de dépenser comme ça, sur chaque opération, des montants qui peuvent être significatifs, en fait.
Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut commencer à investir en bourse avec 100 euros, 200 euros par mois, pas besoin d'aller mettre 10 000 euros.
Exactement, c'est toute l'idée de Robinhood. D'ailleurs, leur grand slogan, c'est de démocratiser la finance, de rendre la finance accessible à tous. Donc, c'est vraiment leur message cœur. Et c'est là-dessus qu'ils ont grossi, en fait, qu'ils ont pu croître aussi rapidement et aussi fortement. C'est en attirant des gens qui n'avaient jamais fait d'investissement en bourse.
La bourse pour tous, ça pourrait être un peu leur... Pour ceux qui connaissent, hein, ça a déjà été utilisé, mais ça pourrait être un peu leur leitmotiv. Pourquoi ce nom, d'ailleurs, Robin des Bois, Robin Hood?
Parce que l'idée, c'est qu'ils sont arrivés sur un marché qui était un peu un oligopole. Il y avait quelques acteurs historiques qui étaient assez puissants, très puissants même. Et donc... Ils se sont présentés comme un acteur qui changeait les choses, qui changeait le statu quo et qui permettait d'ouvrir les portes des marchés financiers de Wall Street à l'ensemble de la population américaine, en fait. Et notamment, on a découvert récemment qu'ils estiment avoir capté plus de 50% des nouveaux boursicoteurs américains sur les 5 dernières années. Donc, c'est assez important quand même. C'est vraiment une voie d'accès maintenant assez naturelle pour les jeunes, notamment, pour aller sur les marchés financiers.
$6 billion, that must mean that there are people who have not been in the market, who have been turned on by you and have discovered the world of stocks that you know I love.
Yeah, it's one really interesting fact about our users that has us more excited than anything else is that the generation of these consumers, they're much younger.
Oui, on a entendu hein, les cofondateurs de Robinhood, invités du célèbre Jim Cramer dans son émission sur CNBC, Mad Money. C'était en 2016. Baijut Bhatt explique que ses utilisateurs sont jeunes, sont des digital natives, hein, c'est comme ça qu'on dit maintenant. En quelques années, vous le disiez, Robinhood est vraiment devenu incontournable auprès des particuliers, notamment des plus jeunes.
Des plus jeunes et aussi des minorités. C'est quelque chose qu'on a appris avec leurs documents boursiers récemment. Ils ont une base d'utilisateurs qui est beaucoup plus diverse que les brokers historiques, que les courtiers historiques. Ils ont plus de Noirs, plus de Latinos qui investissent sur Robinhood. Donc, c'est pas que du marketing. Pour le coup, ils ont vraiment réussi à attirer une population qui n'était pas familière des marchés financiers ou qui n'osait pas investir sur les marchés financiers. Ils ont vraiment créé des opportunités pour des gens d'investir en bourse. Alors après, il y a beaucoup de questions qui se posent sur comment ils font ça et quel comportement d'investissement ou au contraire de spéculation ils tendent à pousser. Mais ils ont, pour le coup, attiré de nouveaux utilisateurs en bourse qui n'étaient pas sur les marchés auparavant.
C'est vraiment l'application des millennials avec une moyenne d'âge de 31 ans pour les 18 millions d'utilisateurs ayant de l'argent sur un compte. Ils détiennent 80 milliards d'actifs. Ça fait moins de $4,500 par client en moyenne. Ça n'en fait pas des millionnaires. J'ai le souvenir du Robin des Bois de Disney qui volait les riches pour donner aux pauvres. Robinhood veut lui rendre les pauvres plus riches en jouant en bourse. Mais Bastien, comment expliquer un tel succès?
Eh bien, il y a eu le succès récent qui est quand même assez particulier et assez phénoménal, qui est dû à un contexte très particulier. Le succès de Robinhood entre sa création et 2019, c'est le succès d'une nouvelle application qui rentre sur un marché qui bouge les choses et qui attire de nouveaux clients. Mais il y a une croissance phénoménale sur ces deux dernières années qui est liée à la crise sanitaire, en fait. Au fait que les gens soient retrouvés chez eux. Tout d'un coup, aux États-Unis, il n'y avait plus de sport, il n'y avait plus de manière de sortir ou quoi. Et les jeunes, notamment, sont mis à investir en bourse pour se divertir aussi. Et puis, ils avaient des liquidités à ce moment-là parce que le gouvernement américain a distribué des chèques directement aux ménages, et notamment aux jeunes adultes. Donc, il y a beaucoup de personnes qui se sont retrouvées avec un peu d'argent de côté. Et pour se divertir, pour passer le temps, pourquoi pas aller investir en bourse et jouer quelques centaines ou quelques milliers de dollars sur des actions ou des crypto-monnaies même.
Oui, c'est ce qu'on appelle un peu la bourse casino, hein, dont on a beaucoup parlé récemment avec cette flambée hein, de Wall Street qui a connu un début d'année 2021 absolument phénoménal dans le sillage notamment des valeurs technologiques. Vous parliez à l'instant des crypto-monnaies. Robinhood a aussi profité de l'intérêt croissant des particuliers pour ses placements?
Absolument. Robinhood s'est lancé sur le secteur des crypto-monnaies il y a quelques années. Et ça a pris de l'ampleur particulièrement en début d'année 2021 avec l'envolée du Bitcoin qui a fait les gros titres, mais aussi celle du Dogecoin. C'est une crypto-monnaie un peu particulière qui a été créée à l'origine un peu comme une blague potache et qui vaut pratiquement rien. Donc, c'est très facile d'en acheter. On dépense quelques dizaines de centimes pour acheter un Dogecoin. Donc, on n'a pas l'impression de faire une vraie dépense. Et ça a beaucoup, beaucoup marché sur Robinhood. Ça a représenté près de 17%, je crois, de ses revenus en crypto-monnaie. Donc, c'est quand même assez significatif pour quelque chose qui est une blague à la base.
Oui, c'est vrai qu'on en a parlé hein, de Dogecoin dans un épisode de La Story que je vous invite à aller écouter. On en avait parlé avec Naïssim Haït Kassimi. Robinhood permet de vendre et d'acheter, vous le disiez, des crypto-monnaies, mais surtout des actions à la base, c'était ça l'objectif, hein, sans payer de commission. Comment est-ce qu'elle gagne de l'argent, du coup?
C'est assez particulier, c'est un modèle qui n'existait pas avant que Robinhood arrive, donc c'est eux qui ont créé ce modèle-là de néo-broker zéro commission. Et pour se rémunérer, en fait, ils vont vendre les ordres des clients à des professionnels de marché qui vont ensuite exécuter ces ordres en dehors des places boursières régulées. Donc, ils doivent quand même prendre les prix de ces places boursières-là, mais ils peuvent vendre un tout petit peu en dessous ou acheter un tout petit peu en dessous et vendre un tout petit peu au-dessus. Et ils se rémunèrent comme ça sur chaque opération à hauteur de un microcentime, un millième de centime ou quelque chose comme ça. Mais il y a tellement d'ordres qui passent et tellement d'ordres qui sont vendus par Robinhood que ce qu'on appelle des teneurs de marché peuvent se faire de l'argent et en plus rémunérer Robinhood. C'est des petites sommes qui s'accumulent très vite et qui deviennent très vite très impressionnantes, en fait. Et ça, ça représente plus de 80% des revenus de Robinhood au premier trimestre, par exemple. C'est vraiment énorme, c'est essentiel pour leur modèle d'affaires. Cette vente d'ordre à des teneurs de marché comme Citadel ou Virtue, par exemple, c'est des gros acteurs, après, qu'on ne connaît pas beaucoup parce qu'ils sont très discrets, ils opèrent en dehors des marchés régulés. Donc, ce n'est pas quelque chose que le grand public connaît, mais c'est très, très important pour le modèle de Robinhood, ouais.
Plus bête qu'une oie, sans foi ni loi, au-dessous du pire, on l'appellera Messire, le roi de mauvaise aloi.
Maudit soit le roi de mauvaise aloi.
Ce modèle économique avec ces géants de l'ombre de Wall Street, ça fait quand même un peu penser à une alliance entre Robin des Bois et le prince Jean. Ça profite aussi à Robin Hood qui a dégagé l'an dernier un chiffre d'affaires de 958,8 millions de dollars en hausse de 245%. C'est une forte croissance, mais le groupe est-il aussi rentable ?
Elle a été rentable l'an dernier. Ça a été une année assez impressionnante pour eux. Ils ont plus que doublé leur nombre d'utilisateurs en 2020. Ils sont passés d'un peu moins de 5 millions à plus de 10 millions. Et ils ont encore doublé là en début d'année avec l'envolée des marchés, l'arrivée des mêmes stocks, ce qu'on appelle les mêmes stocks comme GameStop, AMC, on y reviendra peut-être. Et ça, ça leur a beaucoup servi. Mais ils ont eu un peu plus de difficultés en début d'année, notamment liées à cette épopée GameStop, cette bataille entre gérants spéculatifs et boursicoteurs. Il y a eu tellement de volume sur Robinhood et sur des actions qui étaient tellement volatiles qu'en fait, les chambres de compensation qui sont importantes, mais qu'on ne connaît pas très bien au sein du grand public, c'est des maillons essentiels en fait, de la plomberie des marchés financiers. Et elles demandent des garanties aux courtiers, notamment en cas de problème, si jamais la société devait faire faillite ou les actions que leurs clients ont achetées devaient chuter d'un coup ou augmenter. Et donc là, elles se sont mises à demander des garanties très élevées à Robinhood, qui, en tant que jeune start-up, n'avait pas forcément les moyens, les poches assez profondes à ce moment-là pour répondre à ce qu'on appelle les appels de marge. Et ils ont dû lever des sous beaucoup, très vite, en début d'année. Donc là, sur le début d'année, ils affichent des pertes assez importantes de plus d'un milliard, mais qui sont liées en fait à cet épisode assez particulier.
Mais c'est vrai que Robinhood a fait beaucoup parler de lui ces derniers mois en dehors des marchés, en tant qu'instrument financier contre le pouvoir des hedge funds. Hein, c'est l'affaire GameStop dont vous parliez. Cette affaire GameStop, c'était un peu la revanche des petits dont Robinhood était finalement le représentant.
C'est comme ça que ça a été perçu pendant un bon moment. Et puis, quand il y a eu cette affaire d'appel de marge, Robinhood, pour réduire la facture, en fait, ils ont restreint les ventes d'actions GameStop. Pour rappel, c'était les boursicoteurs qui pariaient sur une hausse du prix de GameStop, de l'action GameStop, qui est un distributeur de jeux vidéo physiques, donc un peu en difficulté depuis quelques années et l'essor de la digitalisation. Et en phase 2, il y avait des vendeurs à découvert, des fonds spéculatifs, des hedge funds, qui, eux, spéculaient sur le fait que le titre allait baisser. Il avait déjà beaucoup baissé, ils spéculaient sur le fait qu'il allait encore plus baisser, avec Amazon qui prend des parts de marché, des choses comme ça, Steam, l'absence de nécessité de céder pour acheter des jeux vidéo, en fait. Et ce qui s'est passé, ouais, c'est qu'au bout d'un moment, il y a eu ces appels de marge de la chambre de compensation et Robinhood a restreint les ventes et les achats d'actions GameStop. Et ça s'est retourné contre eux, en fait, parce que en face, c'était les hedge funds. Il y avait notamment Citadel, pas le market maker, mais le même groupe qui a aussi un hedge fund. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont commencé à faire des parallèles entre les deux et à estimer que Robinhood était dans une situation de conflit d'intérêts à ce moment-là. Et donc, ça leur a porté préjudice. Il y a beaucoup de clients qui ont quitté la plateforme à ce moment-là. Et c'est quelque chose qui est un risque pour eux à l'avenir.
Robinhood va entrer en bourse. Le groupe va ouvrir son capital à ses utilisateurs, des boursicoteurs capables, on l'a vu, de se mobiliser pour soutenir les actions qu'ils affectionnent. Bastien, il faut s'attendre à ce que les liens entre Robinhood et ses actionnaires soient particulièrement forts.
Oui, c'est un peu la volonté derrière de Robinhood. C'est d'avoir une base d'actionnaires qui soit fidèle, qui soit prête à l'accompagner sur le long terme. C'est un peu le modèle que AMC, la chaîne de cinéma, a essayé aussi ces derniers mois de mettre en place. C'est de, au lieu de se reposer sur des grands institutionnels qui peuvent investir des millions, mais partir du jour au lendemain parce que les perspectives du secteur deviennent un peu compliquées ou que la boîte est un peu en difficulté, avoir ces clients-là, ces boursicoteurs qui sont extrêmement fidèles, extrêmement loyaux sur GameStop, sur AMC. On voit que les titres, ils s'échangent encore à des niveaux sans rapport avec les fondamentaux économiques. Donc, c'est une manière aussi de s'assurer contre le risque de voir les institutionnels prendre peur, notamment en cas de régulation du secteur un peu plus stricte, qui mettrait en cause ce modèle d'affaires de vente d'ordre, qui est une possibilité qui ne peut pas être exclue à l'avenir. Voilà, c'est une manière de s'assurer contre ça aussi.
Oui, on va en reparler de ces risques effectivement associés à cette introduction en bourse, mais c'est vrai que 20 à 35% des actions mises en vente qui seront réservées aux utilisateurs de la plateforme, ça ne se voit quand même pas très souvent qu'on privilégie ainsi les clients, c'est rare en bourse. On ne connaît pas encore les détails de l'IPO, notamment la date. La presse évoque quand même une valorisation de 40 milliards de dollars, c'est considérable.
Oui, c'est beaucoup pour un acteur de cette taille. C'est un tiers de la valeur de Charles Schwab, qui est le grand courtier historique aux États-Unis, qui est également coté, et qui vaut 140 milliards de dollars en bourse aujourd'hui, mais qui a presque trois fois plus de clients quasiment, ou deux fois plus de clients, et surtout beaucoup, beaucoup plus d'actifs sous gestion. Enfin, les clients de Charles Schwab ont beaucoup plus d'actifs, beaucoup plus d'actions en jeu, de patrimoine, en fait, sur lequel ils investissent. Donc, c'est un pari sur l'avenir, en fait. Acheter Robinhood à ce prix-là, à cette valorisation-là, c'est l'idée derrière que ça va continuer à croître à la même vitesse ou au même rythme que ça a cru jusqu'à présent et que ce sera encore plus rentable à l'avenir.
Mais c'est vrai que si on regarde les fondamentaux, hein, c'est important, comme on dit en bourse, encore plus qu'au football ou au rugby. Charles Schwab, c'est 3 milliards de dollars de profit l'an dernier. Donc là, on a quand même une somme qui est très conséquente. Quand en face, Robinhood a fait 107 millions de bénéfices. Donc, il y a un écart quand même considérable qui n'est pas forcément justifié par cet écart de valorisation entre les deux. Mais peut-être que les marchés jouent Robinhood et son avenir et le côté un peu trublion des marchés financiers à Wall Street. Robinhood a débarqué, hein, c'est vrai, sur les marchés comme un chien dans un jeu de quilles. Et avec son projet d'IPO, on en sait un peu plus sur son modèle économique, hein, vous en parliez, mais aussi sur les risques qui pèsent sur son activité. Est-ce qu'on peut en savoir plus sur quels sont ces risques?
Ils sont nombreux, hein. C'est une lecture assez intéressante, ce document boursier, il fait plus de 200 pages. Et ils expliquent, ils reviennent en détail sur tous ces risques qui pèsent sur la société, sur son modèle d'affaires. Donc, comme je disais, il y a l'essentiel des revenus de Robinhood, c'est via ce qu'on appelle le payment for order flow, donc cette vente d'ordre à des market makers, des teneurs de marché. Et ça, c'est quelque chose que les régulateurs regardent de près. Ils ne sont pas forcément très à l'aise avec ce modèle d'affaires. Ils estiment que ça peut donner lieu à des abus. D'ailleurs, Robinhood a déjà été sanctionné et a dû payer des amendes parce qu'ils disaient à leurs clients qu'ils étaient assurés d'avoir la meilleure exécution, donc le meilleur prix possible pour leurs actions quand ils les achetaient ou les vendaient. Et ce n'était pas le cas. Ils ont vendu les flux d'ordre à ceux qui payaient le plus et pas à ceux qui proposaient le meilleur prix pour leurs clients. Donc, c'est quelque chose qui est autorisé, mais qu'il faut être clair vis-à-vis de leurs clients quand ils le font, quoi.
Le gendarme de la bourse s'intéresse aussi à la façon dont Robinhood a attiré sur les marchés des gens qui ne sont pas forcément avertis face aux risques qu'ils prennent.
Oui, c'est tout le côté gamification, ludification de Robinhood. C'est quelque chose que les régulateurs, notamment au Massachusetts, regardent de très près. Ils sont en train de même d'essayer de retirer la licence de Robinhood dans l'État. Et c'est quelque chose... Vous parliez de casino tout à l'heure, c'est vraiment cette idée-là. C'est Charlie Munger, le cofondateur de Berkshire Hathaway, qui est connu parce que c'est le véhicule d'investissement de Warren Buffett, et qui expliquait, oui, Robinhood, c'est le casino des marchés financiers. Et on le voit aussi dans leur modèle d'affaires, c'est-à-dire que les actions, c'est l'essentiel des volumes sur Robinhood. C'est ce que la plupart des utilisateurs de Robinhood vont faire. Ils achètent et ils vendent des actions, quelques-unes, une ou deux. Mais c'est pas ce qui rapporte le plus, en fait, à Robinhood. Ce qui rapporte le plus, c'est les options et les crypto-monnaies. C'est beaucoup plus spéculatif, en fait. C'est pas forcément de l'investissement sur le long terme, mais sur le moment, on a envie de gagner beaucoup en très peu de temps. Donc, on va s'endetter pour investir, pour spéculer, pour acheter plus d'options. Et ça, c'est quelque chose qui inquiète beaucoup les régulateurs parce que on peut se retrouver très facilement embarqué à miser plus que ce qu'on devrait et à se retrouver perdant, en fait. Et le gros risque aujourd'hui, c'est que les utilisateurs de Robinhood qui sont arrivés en 2019, en 2020 et cette année, ils n'ont pas connu de baisse des marchés, de véritable crash des marchés. Parce que même en 2020, la chute des marchés, elle a duré 2 semaines. Surtout aux États-Unis, ça rebondit très vite et très fort. Donc, on ne sait pas trop comment ils vont réagir et que peuvent être les conséquences, en fait, si jamais il y a un vrai crash aujourd'hui.
Oui, ça serait le principal risque, vraiment, sur Robinhood, un retournement du marché qui ferait fuir les clients.
Exactement, oui, parce que quand les volumes baissent un petit peu chez Robinhood, les revenus baissent beaucoup. Donc, ils sont très sensibles à l'évolution des marchés et à comment ça se passe sur les marchés. Donc, ils ne peuvent pas vraiment contrôler ça. Donc, ça, c'est un gros risque. Mais au-delà de ça, c'est aussi toute leur manière d'attirer de nouveaux clients qui est aussi remise en cause de plus en plus. C'est-à-dire que, par exemple, pour encourager les gens à investir sur les marchés, à jouer sur les marchés, ils organisent une sorte de loterie pour les nouveaux utilisateurs. Tous les nouveaux utilisateurs qui s'inscrivent sur Robinhood reçoivent une action gratuite. Alors, l'action, en général, elle vaut moins de 10 dollars, mais elle peut valoir jusqu'à 200 dollars. Mais c'est pas ça vraiment, en fait, qui compte pour, aux yeux de Robinhood. Ce qui compte, c'est que, on s'inscrit sur Robinhood, on obtient une action gratuite, et du coup, on n'a qu'une seule envie, c'est de la vendre, enfin, de l'avoir montée, de la vendre. Et on apprend comme ça les bases du système. On voit comment ça marche. On se familiarise beaucoup plus facilement avec les marchés financiers quand il y a peu d'enjeux comme ça. Mais ensuite, toute l'idée, c'est de les encourager à investir leur propre argent dans Robinhood.
Merci Bastien Bouchaud, journaliste au service marché des Échos, pour ce décryptage de la prochaine entrée en bourse à Wall Street de Robinhood. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. La Story, le podcast d'actualité des Échos, est disponible sur toutes les applications de téléchargement et de streaming de podcasts.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real, frank discussions, talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.